par les actes et les sacrifices de ceux d'entre eux qui, dans l'ombre, se dressèrent contre l'ennemi, par le combat qu'ils livrèrent à tout risque en attendant les chars de Leclerc. Paris, compagnon de la libération, endura la douleur et signa la résurrection d'une façon qu'on n'oubliera jamais.
1038 compagnons de la libération, ordre créé en 1940 et clos en 1946. 1038 hommes et femmes prêts à donner leur vie pour leur pays. Le dernier d'entre eux est mort au mois d'octobre. Il s'appelait Hubert Germain, mort membre des forces françaises libres. Plus jamais nous n'entendrons la voix de ces clandestins. L'armée des ombres est-elle condamnée au silence? La question de la transmission se fait plus vive que jamais maintenant que les résistants se sont éteints ou se sont éteints. Et même la question s'est posée au fur et à mesure qu'ils s'éteignaient. Si vous êtes comme moi, abonné à Twitter, vous n'avez pas pu ne pas remarquer cet étrange compte qui chaque jour poste le portrait d'un compagnon, d'un résistant, d'un combattant, son prénom, son nom, et dit en quelques mots le vertige d'un individu face à l'histoire avec un grand H. 150 000 internautes environ voient cela au quotidien. Le compte s'intitule « Paroles de combattants de la libération ». Voici un mémorial sur un réseau social.
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Si l'on veut que la France ait un rôle dans cette libération, elle ne peut pas s'en tenir strictement à appliquer ce qu'elle doit faire, la stratégie alliée. Mais elle doit aussi intervenir. Le peuple français doit être parti à sa propre libération. Et la signification réelle de l'insurrection nationale, c'est celle-là. C'est d'être dans le coup. C'est de participer à cette libération.
La voix de Maurice Criégel qui a participé à la libération de Paris aux côtés du général Leclerc. Bonjour Jean-Christophe Notin.
Bonjour.
C'est donc vous.
Ça y est, vous m'avez retrouvé.
Voilà, je vous ai retrouvé. Ça fait des mois que je me demande qui chaque jour tweete des paroles de compagnons de la libération, de résistants et de combattants pour la France libre. Je me suis dit, qui s'est lancé dans un tel sacerdoce de poster cela sur un réseau social chaque jour avec une photo et en quelques mots. Alors, je vous présente, vous êtes écrivain absolument passionné d'histoire, vous avez publié de biographies du général Leclerc qui font référence, qui ont été éditées chez Perrin aujourd'hui, et bien d'autres ouvrages autour de l'histoire et de l'histoire militaire et de la guerre dont vous êtes un fin spécialiste. Racontez-nous d'abord comment est née l'idée de ce fil Twitter absolument incroyable et qui rencontre un grand succès. Vous avez 67 000 abonnés, ce qui est énorme.
C'est gentil, et je les remercie au passage.
Oui.
Infiniment, parce que le compte existe aussi pour eux et grâce à eux. Comment j'y suis venu? C'était à l'occasion d'un livre sur les compagnons encore,
oui.
Ce qui était la transcription d'interviews que j'avais réalisées avec les compagnons il y a plus de 20 ans. J'ai eu la chance exceptionnelle d'en rencontrer près de 130. Donc hélas, maintenant il n'y en a plus. Et donc j'avais ce matériau-là exceptionnel. Donc avec Talendier, nous avions édité les transcriptions. Et je me disais, c'est quand même dommage, il y a la voix, ils ont une voix, ils ont une manière de raconter tout ça, il faut aussi que je le diffuse. Je l'ai proposé à des médias qui n'en ont pas voulu. Donc je me dis, je vais le faire moi-même.
Ouais.
Je vais sur Twitter.
Je vais être mon propre média.
Je monte mes petites vidéos. Et donc à l'origine, c'était vraiment des bouts d'interviews que j'avais réalisés avec les compagnons. Et donc ça, j'ai fait ça pendant quelques mois. Ça prenait quand même un certain temps. Mmh. Arrive le premier confinement. Là, je n'ai plus le temps du tout. Je me retrouve coincé comme tout le monde chez moi avec la famille et beaucoup d'occupations. Mais je me dis, c'est quand même dommage. Il faut pas arrêter. S'il y a un moment, et vraiment sans faire aucune comparaison avec la Seconde Guerre, s'il y a un moment quand même, il faut donner un peu de l'espoir aux gens, montrer qu'il y a toujours des choses possibles à faire. C'est là. C'est aussi un moment où il faut parler de résistance et de vraiment sans aucune comparaison avec la Seconde Guerre.
Non.
Montrer qu'il y a toujours de l'espoir, c'est maintenant. Et donc, je me dis, bon, mais qu'est-ce que tu peux faire? Essayons de raconter un petit peu ce que sont les résistants. Et donc, en essayant vraiment, en si peu de mots, hein, il y a 280 caractères, essayant 280 caractères de raconter un événement, une situation, un parcours.
Chaque poste est dédié à un résistant
ou
une résistante. Où est-ce que vous trouvez leur portrait? Puisque chaque poste, pratiquement chaque poste, est accompagné d'un portrait.
Alors c'est là où je dis que je ne suis rien. J'utilise toutes les bases de données qui sont disponibles sur Internet. Des gens ont fait des travaux extraordinaires, que ce soit des archives départementales, des différents mémoriaux, lors de la Libération bien entendu, le mémorial de la Shoah, le Métron qui est un dictionnaire extraordinaire du mouvement ouvrier qui s'est étendu aux résistants, aux fusillés, le Mont Valérien, enfin tous les lieux de mémoire ont des bases de données exceptionnelles. Des particuliers ont mis le destin de leur famille. Et donc j'utilise
cette
matière.
Parce que parmi les résistants, il y en a qui sont morts extrêmement jeunes, dont la vie fut fugace, et dont il ne reste parfois pas d'image.
C'est terrible. Vous avez des parcours exceptionnels sur lesquels on n'a strictement aucune photo. Donc des gens ont fait des travaux exceptionnels pour essayer de les retrouver, mais des fois nous n'avons rien. Donc on se retrouve évidemment sans visage.
Je vous fais entendre la voix d'Hubert Germain.
Je vous mets tout de suite à l'aise. Les décorations en soi, on s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant. Il y avait deux façons de les voir, les décorations. Pour ceux qui sont là, ils voient une consécration. Certains, c'est une erreur. Ça veut dire qu'on s'arrête et puis qu'on met les décorations sous verre dans la chambre à coucher. On dit, tu vois, Bobonne, j'étais un héros. Mais si vous voulez considérer que les décorations qui vous sont attribuées, c'est un moment de mise au point, ou dans l'ombre, une voix vous dit « T'as bien joué jusqu'ici, on te demande davantage. »
Il était le dernier. Il a préfacé un livre que vous avez publié chez Calman Lévy, qui est un très très bel objet, merci. Jean-Christophe Notin, qui s'appelle « Dans l'honneur et par la victoire, une année avec les compagnons de la libération ». C'est un très bel objet parce que ça reprend l'idée du compte Twitter, c'est-à-dire un texte extrêmement court, un visage, quelques mots pour dire qui il est. Et c'est imprimé sur un papier très épais, très, très brillant. C'est vraiment un très joli. Voilà. Et merci, vous avez merci. Les mots d'Hubert Germain. C'était juste avant sa mort.
Ah oui, très peu de temps. C'est 6 mois avant. Alors j'avais la chance exceptionnelle de connaître depuis une bonne, plus d'une vingtaine d'années. Donc il a été le dernier compagnon. Et quel compagnon, un parcours, déjà une vie fantastique. Mais il avait une réflexion justement sur la résistance, sur le devenir de la résistance qui était exceptionnelle. Donc nous avons perdu un grand monsieur, mais il nous a laissé un grand témoignage.
Est-ce que c'était lui qui disait, lorsque je mourrai ou lorsque nous mourrons les uns après les autres, la flamme s'éteindra, il restera les braises?
Oui, exactement. Voilà. D'ailleurs, à peu près les termes qu'il a employés dans la préface. Ils avaient un grand souci. Moi, je me souviens très bien avoir discuté avec beaucoup de compagnons. Ils avaient cette préoccupation de se dire mais qu'est-ce que ça va devenir, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui va en rester. Certains étaient très pessimistes. Ils disaient bon, tout ça, de toute façon, ça va être oublié.
Parce qu'il faut rappeler qu'ils étaient eux-mêmes des clandestins. Et donc, il y a toute la question de la transmission et de la mémoire de quelque chose qui s'est fait dans l'ombre.
C'est vraiment ce qu'il faut dire. Ce sont des gens exceptionnels. Moi, j'ai vraiment aucune objectivité à leur regard. J'ai une admiration sans borne. Ce que l'on ne rappelle pas assez, par rapport, par exemple, aux poilus qui ont fait vraiment des choses exceptionnelles dans les tranchées, de courage, de dévouement. Les gens de 40, les résistants, ce sont des volontaires. Ce sont des gens qui se sont levés. Ils auraient très bien pu rester chez eux, vivre leur vie, continuer leurs études, leur métier, s'occuper de leur famille. C'était tout à fait, il n'y a rien à leur reprocher. Ces gens-là ont décidé, mais souvent en quelques heures, Hubert Germain, c'est en quelques minutes. Il dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer mes études, c'est pas possible, il y a quelque chose de plus important que ça, il faut que j'aide ce pays, je ne peux pas rester là. Et il s'en va. Donc vous avez, une fois de plus, j'ai la chance exceptionnelle de les avoir rencontrés, des gens qui ont arrêté leurs études, que leur famille s'était saignée aux quatre veines pour leur payer, c'était des études très chères, du jour au lendemain, ils disent non, c'est pas possible, je m'en vais. Et donc, soit ils entrent dans la résistance, soit ils partent dans la France, ils font le tour du monde en combattant, et ils reviennent, et ils sont victorieux. C'est ça, quand même, le message fantastique. Ce sont des gens qui se sont levés, qui ont, une fois de plus, considéré que leurs intérêts personnels ne comptaient pas, l'intérêt supérieur comptait, et ils l'emportent à la fin.
Je lis un de vos tweets, Jean-Christophe Notin, 5 avril 1944, point, un blanchisseur de l'hôpital Bicêtre, point, 22 ans, point, marié, virgule, un enfant. Je cite, « Vive l'international sera mon mot final de cette belle histoire », écrit-il, « avant le peloton d'exécution ». Point. Et vive notre belle France, j'espère que les peuples seront heureux. Fin de citation, un FTP. Point. André Breillet. Point. Voilà comment, en 280 caractères, il faut condenser ces destins exceptionnels.
Il y a évidemment des choix à faire. On ne peut pas tout raconter. La date de naissance, les études, le parcours, l'origine. Il faut arriver à vraiment essayer de trouver l'essentiel, ce qui a fait vibrer cette personne, sa fibre. Donc j'espère que c'est réussi dans la plupart des cas. Je peux me tromper, évidemment.
C'est très réussi. Je vous fais écouter la voix de Daniel Cordier. Vous voulez nous rappeler qui a été Daniel Cordier avant?
Le secrétaire de Jean Moulin, un très grand résistant, bien entendu.
Voilà.
Je me souviendrai toujours de la première phrase. Je ne vous féliciterai pas d'être venu. Vous n'avez fait que votre devoir. Oh, ça alors, j'ai trouvé que c'était un peu fort, parce que quand même, tous les garçons qui étaient là n'étaient pas arrivés facilement.
Je ne vous félicite pas, vous n'avez fait que votre devoir. C'est le général de Gaulle qui accueille.
Sa manière de les accueillir, chaleureusement.
C'est... Voilà. Le mémorial d'Auschwitz, Jean-Christophe Notin, fait comme vous, tous les jours, tweet. Tweet le portrait d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard qui est mort exterminé dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Tous les jours, une photo, tous les jours, une date, tous les jours, quelques mots très succincts pour dire qui ils sont. Alors j'aimerais qu'on soulève ensemble la question de cette façon de faire de l'histoire et de transmettre la mémoire. Parce que évidemment c'est très efficace, très populaire, la preuve, ça a immensément de succès, vos tweets et ceux du mémorial d'Auschwitz. Ça pose aussi tout un tas de problèmes, parce que ça raccourcit beaucoup les choses, parce qu'au fond, incarner l'histoire comme ça, c'est la simplifier beaucoup.
Oui, ça je l'ai toujours reconnu. À vrai dire, moi, quand je commence une fois de plus ce conte, c'est pas forcément à vocation historique. J'ai envie que les gens, une fois de plus, mettent des visages sur ce concept de résistance.
C'est ça.
Parce que c'est la question qu'on me posait très souvent. Bon, toi, tu écris sur la résistance, essaie de nous raconter la résistance. En quoi ça consiste, la résistance? C'est ce que me disait un des compagnons, Pierre-Louis Dreyfus, qui était donc un très grand armateur, pareil, qui avait rejoint Londres dans les bombardiers. Il me racontait une discussion qu'il avait eue au tout début de 1900, enfin, juste après la défaite, avec Emmanuel Dastier de la Vigerie, un très grand résistant. Et Dastier de la Vigerie, comme ça, au cours d'une discussion, lui dit: bon, bah, c'est bon, on va résister. Et Pierre Lodafus l'avait raconté, mais il dit, mais alors, résister, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça qui me trottait dans la tête. Et voilà. Donc, j'ai voulu essayer de raconter, illustrer ce que chacun peut faire en fonction de sa situation.
Oui.
Parce qu'on a tout. On a des pâtissiers, des ouvriers, des professeurs, des journalistes. Il y a vraiment tout dans la résistance. Et montrer ce que chacun, à son niveau, pouvait faire. Pour moi, il n'y a pas de petit, de grande résistance. Ça aussi, il y avait cette question-là. Est-ce que l'agent de liaison qui ne fait, entre guillemets, que transporter des tracts est moins résistant que celui qui va organiser tout un réseau? Non, c'est la même prise de risque, la même conscience du devoir. Donc, je voulais raconter tous ces gens-là. Et ensuite, avec... en quelque sorte la limite que je m'étais mise moi, je voulais parler avant tout de gens dont on ne parlait jamais. Donc il y a très peu de résistants connus dans l'ensemble, parce qu'une fois, il y a les compagnons de la résistance et de la libération, et puis il y a tous les autres les résistants qui n'ont pas été compagnons. Donc je voulais parler justement de ces inconnus, de ces agents de liaison, de ces femmes qui organisaient le réseau, qui étaient assistantes sociales,
de ces gamins de 16 ans parfois,
de ces gamins, mais même aussi des vieillards, on n'en parle jamais. Il y a eu des personnes très âgées qui ont fait de la résistance, qui sont morts dans les camps. Donc voilà. C'est pas forcément une vocation historique, c'est pas
c'est
une
ça,
étude.
Parce que ça pose vraiment une question très intéressante, c'est-à-dire il y a la résistance avec un grand R, et puis il y a les résistants, et donc il y a la question de la personnalisation qui entre dans l'histoire.
Forcément, et c'est pour ça, pour tout vous dire, que je m'astreins à le faire matin et soir, parce que justement j'essaie de couvrir la pluralité de la résistance. J'essaie d'aborder absolument toutes les questions, que ce soit les communistes, les non-communistes,
ah,
les
alors
royalistes.
Justement, je vous fais écouter Jean-Pierre Vernant. Vous l'avez rencontré,
oui,
Jean-Pierre Vernant.
Chance, exceptionnel.
Voilà, vous avez enregistré sa voix, donc c'est votre enregistrement. Voilà. Il y a du souffle derrière, et c'était déjà un homme âgé. C'était un immense historien, un grand spécialiste.
Quel homme.
Voilà, de la mythologie grecque et de la Grèce antique.
Ça a été ça, la résistance. J'ai fréquenté des types qui avaient été à l'Action française. J'ai rencontré des officiers de carrière, j'ai rencontré des catholiques et des protestants, dont je me suis senti absolument frère, dont j'ai senti qu'il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas comme moi, mais qu'il y avait des choses essentielles que nous partagions. Et que je me suis dit en même temps, à partir de cela, que mon idéal communiste que j'avais toujours ne pouvait absolument pas être réalisé si on continuait à faire comme le parti faisait, à croire qu'il s'agissait soit de conquérir, soit d'écarter les gens qui ne pensent pas comme vous. Et que, du moment qu'on travaillait avec eux, il fallait essayer de comprendre ce qui les faisait agir, comment ils étaient fabriqués, pour voir comment, avec eux, on pouvait faire quelque chose en commun.
Et il y a ça aussi, Jean-Christophe Notin, qui complique beaucoup la mémoire et la transmission de la résistance, de la libération de Paris. Il y a la place des différents courants idéologiques. Il y avait de grands clivages politiques au sein de la résistance. Et il faut savoir qui ensuite devient le gardien de la mémoire. Alors, les communistes se sont sentis effacés de la libération de Paris.
C'est très vrai. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une des rares réactions négatives que j'ai pu avoir sur le compte Twitter.
C'est-à-dire ?
De communistes disant « Ah, mais vous ne dites jamais que les résistants en question étaient communistes ». Alors, c'est certain que c'est un des, comment dire, une base sur laquelle je m'étais fixé également, c'est de peu parler de l'engagement politique.
Pourquoi ?
Parce que j'avais justement en souvenir, ce que me disait Jean-Pierre Vernant, mais ce que m'ont dit beaucoup d'autres résistants, ils disaient... Pour la plupart, je ne me suis pas engagé dans la résistance parce que le parti me l'a dit. Je n'ai pas répondu à un mot d'ordre. Et la preuve pour les communistes, si pour certains dirigeants, ils étaient plutôt dans la politique inverse avant 1941. Et il ne faut surtout pas, une fois de plus, tomber dans le cliché « communiste avant 1941 était collabo ». Pas du tout. Il y a eu plein de communistes qui se sont engagés dès 1940. Vernant en est la preuve, mais il y en a eu un certain nombre. Et donc, une fois de plus, ils ne m'ont jamais dit, mais c'est vrai aussi pour les royalistes, ils ne m'ont jamais dit « moi, je me suis engagé parce que j'étais maurrassien ». Au contraire, Daniel Cordier a toujours dit, hein, il était Action française, il est à Londres. Donc, cette question politique, je me suis dit, il ne faut pas se river là-dessus parce que ça va attirer un clivage également au sein des abonnés. Les gens vont voir la résistance à travers ce clivage politique et pas forcément vrai. Alors, il y a eu des résistants qui se sont engagés au nom du parti. Et donc, à chaque fois que j'en ai la certitude, j'essaie de le mettre dans le tweet. Donc, je rappelle, dans ce cas-là, qu'ils sont communistes. Leur dernière parole, c'est généralement « Vive le PC, vive l'URSS, vive l'international ». Donc, j'ai aucun problème pour le répercuter. Quand j'ai un doute, je n'en parle pas, parce qu'une fois de plus, je ne veux pas qu'il y ait un clivage, ressasser ces questions 80 ans plus tard, revenir sur ce clivage justement dont vous parlez, résistance communiste, résistance non communiste. Ce n'est pas vrai, Vernon le dit, il y a eu des maquis typiquement qui étaient FTP, où il n'y avait pas de communistes dedans.
Qu'est-ce que ça veut dire FTP ?
Alors FTP, c'était la branche militaire, voilà, du parti communiste clandestin. Donc vous aviez des maquis qui étaient FTP. Alors il y avait des communistes, mais il y avait des non communistes. Les gens y allaient parce que c'était les mieux organisés. Donc vous aviez des gens, une fois de plus, qui n'étaient pas du tout encartés, qui allaient. Et puis au contraire, vous avez des gens qui étaient encartés, qui au sortir de la guerre se sont désencartés, parce qu'ils ont estimé que ça ne leur correspondait plus. Donc pourquoi focaliser sur des opinions qui ont parfois été fugaces, une question qui est essentielle. La résistance, ça dépasse tout ça.
En 2020, a été publié un sondage assez effarant. Donc 69% des moins de 38 ans ignorent le nombre de juifs exterminés pendant la Shoah. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que une personne sur quatre de moins de 38 ans dit n'en avoir jamais entendu parler.
Ah, c'est un désastre absolu. Alors c'est là aussi, comment dire, les retours une fois de plus positifs que je peux avoir de ce compte Twitter, il y a beaucoup de jeunes qui me disent en effet, j'apprends, je ne savais pas. Et on voit qu'en apprenant, ils sont quand même curieux de se renseigner. Et j'ai un certain nombre de professeurs qui me disent, j'utilise vos tweets pour enseigner cette période. C'est là où je me dis qu'il y a quand même une fibre historique dans cette histoire-là, dans l'utilisation du tweet. Mais c'est évidemment une période à enseigner. Mais je trouve qu'il faut trouver les mots, une fois de plus. Il y a les grands concepts qui sont souvent difficiles, la déportation, la résistance. Il faut quand même arriver à l'illustrer, à l'incarner.
C'est ça.
Ça évidemment oblige à faire des choix, mais bon, il y a quand même une matière suffisante pour arriver à faire quelque chose de très, très large. Et je pense que quand vous arrivez à incarner les choses, immédiatement les gens adhèrent. La réaction, une fois de plus, je parle beaucoup des abonnés, c'est l'effet miroir. C'est la question qu'on se pose, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?
Oui.
Parce qu'il y a ce face-à-face avec le résistant.
Parce qu'il y a ce face-à-face, avec son visage, avec des hommes et des femmes qui ont notre âge, qui ont nos visages.
Nos vies.
Ouais, et nos vies. Et nos vies.
Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?
Merci beaucoup Jean-Christophe Notin. Donc, nous avons dévoilé l'identité de celui qui se cache derrière ce compte Parole de combattant de la libération. Merci d'avoir été mon invité. Beaucoup. Dans l'honneur et par la victoire, une année avec les compagnons de la libération. C'est le livre aussi très joli objet qui est sorti chez Calman Lévy. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin, on s'intéresse au plaisir et au bienfait du pain. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
L'original ou la copie? Organon Originals, 22 médicaments originaux pour pas un centime de plus.
Rendez-vous sur organonoriginals.fr ou chez votre médecin.
Médicaments Organon Originals, l'idéal.
Les éditions Radio France présentent
Le fantôme de Philippe Pétain.
Un livre de Philippe Collin.
Je fais à la France le don de ma personne.
La figure et la vie du maréchal Pétain hantent toujours la France d'aujourd'hui. Quelles questions, quelles controverses se cachent derrière ce spectre? Avec 12 historiens, je vous propose de lever le voile sur ce personnage hors norme.
C'est moi seul que l'histoire jugera.
Le fantôme de Philippe Pétain.
Par Philippe Collin. Un livre coédité par France Inter.
Salut Steph.
Salut.
Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous à l'hôpital?
Très bien. Ils m'ont renouvelé l'ordonnance.
Tu continues avec tes médicaments Mylan?
Ouais, c'est juste que maintenant ça s'appelle Viatrice.
Ah, et ça te change beaucoup alors?
Non, ça change rien. Ça c'est bien.
Mylan devient Viatrice et nous sommes toujours présents dans la quasi-totalité des pharmacies et des hôpitaux pour continuer à vous donner accès à des médicaments de qualité. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
Il est 10h, passé de 50 secondes sur France Inter. Retour de l'info, bonjour Jacqueline Fardel.